Astral, un balado qui vous invite à vivre au rythme des saisons, des étoiles et de l'inspiration du moment. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace où cohabitent astrologie, spiritualité, actualité et autres folies passagères. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Astral. Aujourd'hui, nous allons parler de la saison du taureau, de Vénus, de la saison des éclipses, du Mercure rétrograde, des nouvelles lunes, des pleines lunes. Et là là, je vous dis qu'il ne manque pas d'action dans le ciel ce mois-ci. Alors, comment a été votre saison du bélier? Est-ce que ça a été à toute allure, à grande vitesse? Avez-vous accompli plein de choses? Avez-vous semé plein d'intentions pour le futur, pour vos projets? Est-ce que vous vous êtes mis en action? Est-ce qu'il y avait trop d'action? Est-ce que vous vous êtes dit « Oh là là, moi, c'est too much, je reste tranquille, je sortirai plus tard. » Mais maintenant, on passe à la saison du taureau. Nous sommes dans une modalité fixe, dans l'élément de la Terre. C'est certain que Jupiter est encore en bélier, donc il y a toujours cette forte énergie du bélier. Mais on rentre quand même dans la saison du taureau qui est un peu plus lente ou une énergie qui se dépose quand même un petit peu plus que celle du bélier. Alors après avoir couru, là maintenant on va aller labourer la Terre, c'est ce qu'on va faire. Donc, petit rappel des signes fixes, les taureaux, lions, scorpions et verseaux. Ils représentent la stabilité et l'ancrage entre deux saisons. Ils représentent une énergie qui se dépose totalement et qui s'enracine profondément. Que ce soit au niveau des habitudes de vie, de l'attachement, des croyances, de la pensée, il peut y avoir une certaine fixité, une certaine rigidité chez les natifs des signes fixes. Évidemment, il faut toujours voir l'ensemble de la charte, mais c'est l'énergie qu'ils incarnent, c'est leur signature. C'est pour ça qu'on va dire des natifs des signes fixes qui sont plus difficiles à déraciner ou qui acceptent plus difficilement le changement, à moins que ça vienne d'eux, ça c'est autre chose. Ça leur prend du temps à bouger, mais une fois que c'est fait, ils sont inarrêtables, ils ne vont pas regarder en arrière. On le voit d'ailleurs en amour, c'est des personnes qui acceptent très mal souvent de se faire laisser, mais si c'est eux qui laissent, bye bye! Donc, pour cette raison, c'est souvent eux qui vont finir une relation en premier. Si on reste avec cet exemple-là, on peut voir que le lion, si on commence avec le lion, il est capable d'endurer certaines choses pour un temps, il est capable de prendre du drama, tu sais, il est capable de jongler avec ça, mais plus que tout, souvent, le lion, il va craindre le rejet, va craindre d'être rejeté. Il peut donc essayer de regagner la personne qui essaye de le quitter comme à outrance, là, en lui démontrant démesurément son amour ou en gâtant la personne de façon exagérée, on va dire ça comme ça. Ou bien, il va la quitter la personne. Il va la quitter avant de se faire quitter par orgueil. Ça, nos petits lions, ils peuvent avoir tendance à faire ça. Puis ils vont avoir l'air d'être au-dessus de leur affaire, puis que ça ne les atteint pas. Mais je vous garantis que quand un lion quitte quelqu'un qu'il aime ou quand une relation se termine, malgré ce qu'il démontre, c'est sûr que son cœur y a mal. Mais c'est ça, il va passer au prochain appel. Une fois que la coupure est faite, définitivement, parce que le lion peut donner quelques chances, il comprend ça, qu'on est humain, qu'on fait des erreurs, mais c'est ça, une fois que c'est fini, c'est fini. Un autre signe fixe, le scorpion, lui, va faire vraiment une cour compliquée aux allures de conquête, très intense, ou sinon très direct, il peut être vraiment super direct, là, avec le scorpion, c'est vraiment tout ou rien. Ce qu'il craint, le scorpion, plus que tout, c'est vraiment l'abandon. Alors, à cause de ça, il peut s'accrocher très, très longtemps à quelqu'un. Mais du moment qu'il apprend à calmer son monde affectif par lui-même, qu'il apprend à se rassurer, c'est là qu'il commence à gagner son indépendance, son autonomie. Et à partir de ce moment-là, si la relation ne lui convient plus, il va disparaître de votre vie, possiblement pour toujours. Vous ne le verrez plus jamais. Ça, c'est un scorpion, quand ça coupe, ça coupe. Le Verseau, lui, va séduire par ses idées, son originalité, sa curiosité envers vous. Il va vous faire vraiment sentir spécial. Par contre, il a besoin d'espace pour être bien en relation, il peut avoir peur d'être envahi et pour cette raison-là, la personne qui partage la vie d'un Verseau pourrait penser qu'il n'a pas besoin de lui, qu'il est tough notre Verseau, qu'il n'en a pas de problème. Mais pas du tout. Une fois que le Verseau a trouvé sa personne idéale, il peut la mettre sur un piédestal. Alors, il peut avoir un côté un petit peu comme le scorpion, un peu un contrôle, des fois une rigidité, mais même chose qu'un scorpion, quand c'est fini. Le Verseau, il va passer à autre chose. Donc, le Verseau scorpion, des fois, ils vont avoir ces choses-là en commun. Le taureau, le signe qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est celui pour lequel ça va être plus long avant de quitter, avant de se séparer. Parce qu'il va être tellement sûr qu'il ne fait pas d'erreur, il veut tellement être sûr qu'il ne va pas le regretter. Laisser quelqu'un pour un taureau, là, c'est vraiment une décision très, très, très difficile pour lui. Il prend son temps. Il prend son temps, fois deux, fois trois, fois quatre. Là. Mais une fois qu'il a passé à autre chose, même chose, il ne retourne plus en arrière. Quand le taureau, il en a assez, il en a assez. Ça, c'est clair. Mais le taureau, évidemment, on va le regarder un peu plus loin. On va commencer par regarder Vénus, la planète qui le gouverne. J'ai déjà brièvement parlé de Vénus quand j'ai fait l'épisode sur le Verseau et vous allez sûrement vous en rappeler. On parlait de Saturne qui, pour venger sa mère Gaïa, avait coupé les testicules de son père Uranus. Hein? On se souvient de ça? Uranus, le dieu du ciel et du cosmos, qui s'est fait couper les couilles, chop chop. Ben oui. Et ces fameuses testicules d'Uranus ont été jetées à la mer et à partir de là, une formidable créature prit forme. C'était la naissance de Vénus. Le symbolisme de la naissance de Vénus unit le feu, associé à Uranus, et l'eau, associée à Gaïa, d'où résulte la vie. Donc, c'est pas un hasard. Vénus représente vraiment le divin qui s'incarne dans la terre, le lien entre terre et ciel et la beauté et l'attachement. Son étymologie classique vient du verbe latin vincere ou vincere, vous me pardonnerez mon latin, qui veut dire lié, attaché. C'est donc le principe de rassembler, de rapprocher et d'unir. Vénus, là, c'est la colle qui tient tout ensemble. Anciennement, son nom était aussi associé au verbe lunerari, qui était neutre et abstrait. Il n'était pas associé à un genre particulièrement à cette époque-là. Il est passé au féminin par la suite, ça c'est arrivé plus tard. C'était un verbe qui voulait exprimer une attitude envers les dieux, plus précisément dans un effort pour les charmer, pour capter leur bienveillance. Lunerari, qui ressemble à unir d'une certaine façon, c'est essayer de plaire au maximum à un dieu afin de recevoir en retour sa gratitude et ses bonnes grâces. On sent bien l'énergie de Vénus dans ces mots et pourquoi ça fait d'elle la déesse de l'amour, de la séduction, de la beauté, des choses auxquelles on accorde de la valeur. Elle est aussi associée à la déesse grecque Aphrodite, c'est la version romaine en fait d'Aphrodite, et elle est la mère d'Hermaphrodite et de Cupidon, le dieu de l'amour. C'est d'autant plus intéressant parce qu'il y a deux Vénus, il y a la Vénus du matin et la Vénus du soir. Une qui est plus combattante et une autre qui est plus introvertie, the warrior and the lover. La combattante et l'amoureuse. Alors, on va regarder ça parce que Vénus, elle a vraiment un mouvement dans le ciel qui est très particulier, qui est très différent de toutes les autres planètes si on regarde du point de vue de la Terre. Pendant 9 mois, Vénus se lève avant le soleil. Dans cette position-là, elle est appelée étoile du matin ou même Vénus Lucifer, celle qui annonce la lumière de l'aube. Mais c'est ça, elle a été démonisée, évidemment, et associée à Lucifer dans la religion catholique, chrétienne, etc. Là, Lucifer, le rebelle. Donc, Vénus a des caractéristiques un peu rebelles. Si on revient à Vénus, qui est aussi l'étoile du berger, il ne faut pas oublier que Vénus, c'est le troisième objet le plus brillant dans le ciel après la Lune et le Soleil. C'est vraiment notre astre le plus brillant. C'est celle qui reflète le plus la lumière du soleil. Donc, la Vénus de jour a des valeurs teintées par Uranus, son père, donc par le feu et l'air, fonceuse, indépendante, autonome, visionnaire, combattante, résiliente. Et quand on dit combattante, on ne veut pas dire nécessairement qu'elle s'en va à la guerre, là. Quoique, il y en a des associations entre la Vénus du matin et la guerre, mais symboliquement, ça veut dire qu'elle est investie, qu'elle se soucie avec intensité des choses. Elle care, comme on dit en anglais, she cares. C'est vraiment l'énergie de Vénus de jour. Après cette phase de jour, elle va disparaître du ciel pendant 40 jours et 40 nuits. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression-là, ça vient de là. C'est sa période rétrograde et elle va réapparaître sous la forme de l'étoile du soir ou de Vénus Hespérus pour un autre 9 mois. Cette Vénus-là va avoir des valeurs teintées par Gaïa, sa mère, par l'eau, la terre. Elle va être plus intériorisée, plus songeuse, plus pondérée, peut-être plus possessive, peut-être un petit peu plus en contrôle. Associée à la Lune aussi parce qu'elle est de nuit. Alors, l'énergie change. Alors, c'est les deux facettes de Vénus. Donc, Vénus a ses saisons, une saison de jour et de nuit. Présentement, elle est de soir. Et elle va redevenir Vénus du matin à partir du mois d'août, lorsqu'elle va faire son rétrograde. Elle nous a d'ailleurs donné de merveilleux spectacles tout l'hiver avec Jupiter, quand les deux étaient bien alignés là, dans le signe du bélier. Vous pouvez toujours la voir, Vénus, là. C'est sûr que là, les journées s'allongent, fait qu'on la voit peut-être un petit peu plus tard, puis un petit peu plus à l'est. Mais c'est intéressant quand même de la suivre et de la voir. Vénus prend 225 jours approximativement à faire le tour du Soleil, mais par sa position, elle fait une valse cosmique très intéressante avec le Soleil et la Terre, du fait qu'elle est entre le Soleil et la Terre. Elle a un cycle de 8 ans qui forme au fil du temps dans le ciel une étoile à 5 branches, ou la rose de Vénus aussi, une fleur à 5 pétales, les pétales de Vénus même. Peu importe d'où on la regarde, Vénus, quelle beauté! Quelle beauté! Ces points se forment quand Vénus entre en conjonction avec le Soleil, soit en conjonction supérieure ou inférieure. Quand on parle de conjonction inférieure, c'est le début du cycle. C'est le moment où est-ce qu'elle est rétrograde. Et supérieure, c'est quand elle est de l'autre côté du Soleil, par rapport à notre point de vue sur la Terre, évidemment. Cette danse dans le ciel et la géométrie que ça crée s'approche de la suite mathématique de Fibonacci, un ratio parfait de chiffres entiers là, qu'on va retrouver à plein d'endroits dans la nature. Meilleur exemple de ça, si vous regardez la coquille d'un escargot, toute la spirale, c'est ça la séquence de Fibonacci. Et aussi, cette géométrie-là nous rappelle le nombre d'or, le ratio de 1,6 qui représente un principe d'harmonie, de beauté qu'on retrouve aussi partout dans la nature. Donc, ces deux formules mathématiques et géométriques qui s'entrecroisent représentent le ratio parfait de l'harmonie universelle des formes. C'est ce ratio-là ou ces ratios-là peuvent être transposés sur n'importe quelle forme géométrique, que ce soit un rectangle, pentagone, triangle, peu importe. Puis, ce qui est merveilleux de ça, c'est qu'on retrouve ça partout dans la nature, dans comment les feuilles poussent sur une tige, là, à la forme des artichauts, quand vous regardez un artichaut, une cocotte de pin, une pomme de pin, une queue de violon, vous allez retrouver toute cette géométrie-là. Et les humains, justement, l'ont rapidement capté cette géométrie-là, cet esthétisme-là, si on peut dire, et ça a été intégré dans l'architecture, dans l'art. On pense à Leonardo da Vinci, lui, il avait catché ça, là, tu sais, vraiment partout, peu importe qu'est-ce que, de la Joconde à tellement de choses qu'ils ont faites, tu peux retrouver dans ses tableaux, dans différentes choses qui le fait vraiment, ce ratio-là, le nombre d'or et cette séquence-là de Fibonacci. Mais revenons à l'astrologie. Cette étoile à 5 points se retrouve dans 5 signes du zodiaque qui vont changer graduellement à travers le temps sur une période de 100 ans environ. Présentement, ils sont en scorpion, capricorne, bélier, gémeaux et lion. On va d'ailleurs avoir un rétrograde de Vénus cet été en lion, ça promet. La dernière fois en lion, c'était en 2015 pour la conjonction inférieure, donc le début du cycle, et 2019 pour la conjonction supérieure. Ça veut dire qu'un cycle de Vénus complet en lion se termine et qu'un autre commence. Donc, le fameux 8 ans, son cycle de 8 ans, là, il y en a un qui est complété pour le lion, là. Donc, elle va commencer un nouveau point en lion qui va s'étendre sur une période de 8 ans. Donc, ça peut être intéressant de voir au début de ce cycle-là, qu'est-ce qui se passait pour vous en 2015. Mais pour savoir ce que ça veut dire, vous allez devoir attendre que je vous en reparle en juillet. Ben oui, un petit cliffhanger de temps en temps, c'est le fun. Fin intéressant. L'année dernière, Vénus a fait un nouveau point en balance qui n'était pas arrivé depuis 150 ans. Ça veut dire que graduellement, Vénus va commencer à faire une nouvelle séquence de points dans des nouveaux signes, dans le fond. Et en plus, son dernier passage en balance, c'était 1880, en même temps que Pluton était aussi en Verseau. Et ce qui concorde aussi avec les périodes de révolution française et américaine dont je vous parlais dans le dernier épisode, dans le contexte de Pluton en Verseau. Donc, c'est intéressant de voir qu'ils vont encore s'entrecroiser et qu'est-ce que ça va vouloir dire. À voir. C'est sûr que le retour d'un point en balance pour Vénus, il y a vraiment un retour du féminin ou un rebalancement des rôles masculins et féminins, tout ça. On va pouvoir plus approfondir ça avec le temps, mais ça va faire partie, ça aussi, de Pluton en Verseau, d'une certaine façon, ce nouveau point-là qui est en train de se développer là, au fil du temps. Parler de Vénus, là, comme vous pouvez voir, c'est magique. Là. C'est vraiment comme un diamant qui a tellement de facettes. Et là, on vient juste de surfer la surface. Là. Mais bref, c'est certain qu'on aura ça aussi, l'occasion de s'en reparler plus tard. Je voulais ajouter aussi, parce qu'on parle souvent d'astrologie occidentale, les racines hellénistiques et tout ça, mais les Mayas, qui étaient des observateurs d'étoiles extraordinaires, avaient déjà, eux, catché que Vénus n'était qu'une seule étoile. Parce que au départ, là, dans le temps, les Grecs, quand Vénus disparaissait derrière le Soleil et revenait des mois plus tard, eux pensaient que c'était une autre étoile. Mais c'est intéressant de voir que les Mayas, eux, ils l'observaient de jour comme de nuit et ils ont travaillé énormément avec elle. D'ailleurs, les Mayas, autour des années 1000, avaient déjà un genre d'almanach qui montrait le cycle synodique de Vénus. Donc, le cycle de 8 ans, je vous parlais, ça a un nom, le cycle synodique. Eux ont beaucoup travaillé avec l'énergie de Vénus et aussi tout le côté, justement, Vénus, étoile du matin, guerrière, tout ça, c'est possible que ça nous vienne beaucoup d'eux aussi. Là. Je ne voudrais pas trop m'avancer, il faudrait que je le fouille un peu plus, mais je sais que pour eux, c'était très important, là, ces deux facettes-là de Vénus. Donc, Vénus, c'est l'amour, le désir, le plaisir, le sens artistique, la beauté, l'harmonie, les domaines affectifs, les collaborations, c'est nos valeurs, c'est nos finances aussi, parce que quand on parle de valeurs, on parle de moyens d'échange. Et moyen, qui dit moyens d'échange, même échange, c'est à la fois très Vénus et très Mercure. Et ces deux-là, c'est copain-copain, hein, Vénus-Mercure. Là, mais bon, bref, ça, on ira approfondir ça une autre fois aussi. Vénus, dans la charte, c'est vraiment votre antenne émotionnelle. C'est elle qui nous indique comment on expérimente avec le monde d'un point de vue sensuel, physique, émotionnel aussi, comme je disais. C'est elle qui nous fait frémir, c'est elle qui nous fait rougir. Vénus, c'est vraiment le lien qui unit, unir. C'est important ce mot-là quand on pense à Vénus. Donc, le lien qui unit toutes choses dans la beauté, dans l'harmonie, dans la volupté. Alors, où est votre Vénus? Est-ce qu'elle est en signe de feu? En bélier, lion, sagittaire. Là, c'est sûr que les Vénus de feu, c'est un autre monde. Là, elle est vraiment, justement, elle est plus conquérante. Donc, conquérante, flamboyante, idéaliste, aventurière, ça c'est certain. En signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais là, c'est sûr qu'en taureau, elle est chez elle, hein, c'est son domicile. Fait, sensuelle, en quête de sécurité. Elle peut être protectrice, elle va être humble, elle va être solide, elle va être responsable. Est-ce que votre Vénus est dans un signe d'air, gémeaux, balance, verso? Elle gouverne aussi la balance. Alors, enjouée, curieuse, justicière, charmeuse, sincère, brillante, est-ce qu'elle va être différente? Est-ce que, justement, elle va venir chercher quelque chose qui vous permet de vous exprimer autrement? Est-ce que votre Vénus est dans un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson? C'est sûr que Vénus, en scorpion, elle est en détriment. Elle est le plus loin de chez elle qu'elle peut être. Alors, ce n'est pas son endroit préféré. En signe d'eau, notre Vénus, elle devient sensible. Elle devient aussi émouvante, mais intense, fusionnelle, là, souvent dans le cas du scorpion. Ou encore artistique, enivrante, très romantique aussi. C'est sûr, Vénus en poisson, là, est en exaltation, alors c'est autre chose. Là, elle va être vraiment passionnée et très rêveuse, ça c'est certain. Où est votre Vénus? Bon, maintenant, on va regarder le taureau. Associée à la maison 2 et 7 en astrologie moderne, Vénus gouverne à la fois le taureau et la balance, comme on disait. En balance, signe d'air, elle favorise davantage les échanges, elle est plus volubile et plus à l'aise à connecter avec les autres qu'en signe de terre. En signe de terre, elle est en terrain fertile, elle est en terre d'abondance, c'est tellement sécurisant pour elle, c'est comme le printemps éternel, elle adore ça. Donc, il y a vraiment une différence dans la façon qu'elle s'exprime ou qu'elle connecte ou dans les choses qu'elle va valoriser. C'est sûr que dans le taureau, elle va valoriser le monde des cinq sens. En signe d'air, elle va valoriser justement les idées, les échanges, etc. Donc, en taureau, le domaine des cinq sens, du physique, ça goûte bon, ça sent bon, c'est plaisant à l'œil, c'est confortable, c'est donc bien beau. Ça inspire l'amour. Mais pas n'importe lequel amour, là. L'amour qui dure dans le temps. L'amour qui est solide, qui est rassurant. Ou des fois, c'est purement physique aussi. C'est quand même, hein, un taureau, c'est un taureau, c'est sensuel, c'est fort. Mais de façon générale, le taureau, quand même, il recherche une stabilité. Ça dépend dans quelle phase de sa vie il est. Quand il est avec quelqu'un, puis vraiment, là, il est en amour, il va vouloir construire. Mais c'est très sensible à la beauté et à la sensualité, un taureau, c'est sûr. Donc, chers taureaux, vous l'aurez compris, vous êtes des créatures de confort et de sensualité. Votre swag s'exprime souvent en toute simplicité, sans que vous ayez quoi que ce soit à dire, même pas un mot. Ou à travers votre look, votre apparence qui est soignée. Même si votre look est irrévérencieux, qui a des allures de punk, de hip-hop ou même un charme campagnard, vous êtes capable d'attirer l'œil dans votre chandail de coton ouaté ou de nous surprendre le lendemain avec des talons hauts ou des semelles compensées parce que, tu sais, c'est plus confortable, c'est sexy pareil. Il y a ça. Ah, en plus, vous sentez toujours bon, vous êtes fière. Même quand vous êtes au naturel, vous avez un je ne sais quoi. Ben en fait, je sais c'est quoi. C'est Vénus. On ne pose pas de questions. Là. On l'a vu tout à l'heure, Vénus, votre je ne sais quoi, ça vient de Vénus. Mais ultimement, c'est votre présence solide et calme, chaleureuse et rassurante qui va charmer plus que tout. Calme et rassurant. Ça, c'est en apparence. Parce que quand on connaît bien un taureau, on sait bien qu'en dessous de ça, vous êtes inquiet, anxieux, stressé par l'idée du changement. Oh là là, le changement. Quel mot horrible et terrible. On l'aime pas celui-là. Surprise. Ah non, pas de surprise. Je ne veux pas me faire surprendre. C'est la chose que j'haïs le plus au monde. Le taureau, il veut savoir où est-ce qu'il s'en va. Donc, voilà. Souvent aussi, le taureau, ben, il n'est pas confortable à exprimer ses sentiments. Ces sentiments qui sont, ma foi, souvent bucoliques, nostalgiques, romantiques, sensuels, comme on disait. Mais je vous entends, là, mes taureaux, là. Hey, moi, je pensais d'être solide comme le roc, là. Je suis pas fleur bleue, là. Je suis un taureau, merde! Mais non, on se calme, là, les petits taureaux, là. On se rappelle, là, le taureau, il est gouverné par la belle et exquise Vénus. Donc, votre roc, là, ben, c'est plus une petite vallée de terre où il pousse des fleurs, des petits fruits, puis des petits animaux qui vont se reposer, s'étendre au soleil, puis se la couler douce, là, tu sais. Gardez ça en tête, là. Faites la paix avec la belle Vénus qui vous gouverne. Acceptez de vous adoucir. Comme disait Félix Leclerc, je suis un doux, mais je ne suis pas un mou. Apprenez à faire la différence. Dans le fond, les taureaux, c'est comme une cherry blossom. C'est une montagne de chocolat dur à croquer, mais qui est tellement sweet et coloré par en dedans. Vous avez tellement, tellement de sweetness, de douceur à offrir. Et en plus, arrêtez de voir le beau seulement chez les autres et voyez-le en vous aussi. Tu sais, c'est normal parce que, justement, vous êtes programmé par Vénus pour voir le beau partout. Ça a l'air tellement plus beau et plus éclatant ailleurs que chez vous. C'est pour ça que c'est tellement important de reconnecter avec votre valeur, avec votre Vénus, dans le fond. Tu sais, si les autres en ont de la valeur, vous en avez sûrement vous autres aussi. Tu sais, peu importe de quelle façon elles s'expriment, vous n'êtes pas unidimensionnel, là. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, d'être capable de reconnaître votre valeur. C'est très important. Associé à la maison 2 des ressources, de l'argent, des valeurs, vous avez un rapport particulier à l'argent. Je dis souvent en rencontre qu'un taureau aime le concret, savoir où ça s'en va, aime pas le changement, comme on disait. Et à cause de ça, il peut avoir une tendance à rester trop longtemps dans une situation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, une situation qui est plus bonne pour lui. Donc, une saine relation avec l'argent, c'est plus que nécessaire. La capacité de se créer un petit coussin de sécurité, c'est un must pour au moins avoir la capacité de partir ou de vous retourner de bord quand c'est assez, quand vous n'avez assez, quand ça ne va plus. Alors ça, prenez ça en note aussi, c'est important. Être capable d'avoir votre propre sécurité financière ou une indépendance, une autonomie financière, si ce n'est que pour, tu sais, vous retourner le bord, c'est vraiment un must, là, parce que déjà que ça vous prend du temps à faire un changement, il faut au moins que vous ayez cette sécurité-là. Un autre truc aussi qui est important, votre valeur n'est pas seulement associée à ce que vous faites, à votre travail. Vous êtes tellement plus que ça. Mais votre travail, évidemment, répond à un besoin de sécurité et de valorisation, comme bien du monde, mais chez vous, c'est deep. Votre personnalité, souvent, va être construite très fortement autour de ça. Alors, le travail devient souvent une bouée de sauvetage, mais peut devenir aussi une prison si jamais vous n'aimez plus ce que vous faites. Vous êtes tellement loyal, des fois trop. Faites attention parce qu'il y a rarement un boss qui va être plus loyal que vous, tu sais. Vous avez le droit de poursuivre vos rêves vous aussi. Alors, ne restez pas pris dans vos peurs. Just do it. Ça, c'est mon conseil numéro 2. Et là, comme on le disait, vous êtes des créatures de confort, mais qu'est-ce qui arrive quand on vous sort de votre zone de confort? Quand vous êtes dans l'inconnu, qu'est-ce qui arrive? Bien là, ça se peut que vous deveniez un peu grognon, un peu chialeux, un peu têtu, un peu pas toujours facile à vivre, un peu boqué. Et quand vous boquez, vous devenez cette montagne impossible à bouger. Ça, c'est garanti. Quand vous voulez rien savoir, vous voulez rien savoir. Le taureau, c'est le plus fixe des signes fixes. Le changement, ou peu importe, une décision, il faut que ça vienne de vous. Et pour que ça vienne de vous, il faut vous laisser seul à réfléchir à vos affaires. Vous revenez tout le temps, de toute façon. Il faut vous laisser faire votre petit bonhomme de chemin et juste pas être pressé. Ça, c'est une autre chose qu'il faut comprendre. Les taureaux, ils ont deux vitesses. On, off. Il n'y a pas d'entre-deux, là. On est lazy sur le couch, on prend ce chill ou on est le premier à rendre service puis on est le premier à mettre l'épaule à la roue. C'est un ou l'autre. Alors, toutes ces blagues-là que le taureau toujours bâché à rien foutre, là, ben c'est proportionnel à tout le travail qu'il fait. OK, fait, si vous le voyez sur son divan en train de prendre ce coup, là, laissez-le tranquille, il a dû travailler sûrement très fort. À part quand ils sont ados. Ça, c'est notre game. Ado, le taureau, là, c'est ça, il faut pousser vers l'effort bien souvent. Une fois qu'il travaille pour lui-même, une fois qu'il travaille pour quelqu'un, bien là, c'est vraiment un autre game. Il faut dire aussi que les taureaux ne sont pas pressés à vieillir. Ils sont vraiment, ils aiment ça qu'on prenne soin d'eux. Alors là, ils ne sont vraiment pas pressés à devenir adultes bien souvent. Un autre truc là, qui va gosser un taureau, si vous touchez à ses affaires, hey, mes choses. Oh là 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 là, là, faut faire attention. Je vous entends, là. Hey, j'ai travaillé assez fort pour avoir mes choses. Le fait pareil, travaillez vous autres avec, là. On dit pas que vous êtes chiche, là. Au contraire, là. Mais comme je disais, vous mettez tellement d'efforts pour arriver là où vous voulez être. Ça vous fâche de faire profiter de vous. Fait qu'il y a vraiment un côté comme, hey, c'est mes affaires. Je travaille fort pour ça, tu sais. Mais vous adorez faire plaisir aux autres. Vous pouvez même en faire trop. Vous avez tendance à acheter des gros cadeaux. Puis encore là, l'amour qu'on vous porte, elle ne va pas à la grosseur du cadeau que vous achetez, là, mes petits taureaux, là, fait qu'on se calme le portefeuille un peu, là, tu sais. Mais il y a vraiment cette idée-là, vous êtes très gâteau parce que ça fait partie de votre nature. Puis là, bien, pire encore, de toucher pas à mes affaires, je pense que ça serait « mêlez-vous pas de mes affaires ». Oh boy, là, c'est zone dangereuse. Qu'est-ce que vous avez peur qu'on découvre? Bien là, attention, parce que je vais révéler votre secret. Vous avez peur qu'on découvre que vous n'êtes pas le rock solide que vous vous imposez d'être en tout temps. OK, je le répète. Vous avez peur qu'on découvre que vous n'êtes pas le rock solide que vous vous imposez d'être en tout temps. Et là, c'est ça la morale de l'histoire. Même vous, là, mes taureaux, là, vous ne pouvez pas être solide et en contrôle de la situation et de vos émotions en tout temps. C'est impossible. Et vous n'êtes pas moins solide que les autres quand vous vous exprimez ou exprimez vos sentiments ou votre vulnérabilité. Mais peut-être que c'est possible que vous attendez trop longtemps avant de le faire. Et là, ça devient tellement lourd. Puis comment je me défais de ça? Alors, intégrez votre part de sensibilité dans votre vie. Laissez-la s'exprimer. Conseil numéro 3. Donc, mes taureaux, vous êtes tellement cette belle énergie-là chaleureuse, chaude et plaisante. Vous êtes des bons vivants. C'est toujours un plaisir de vous avoir dans un groupe. On peut toujours compter sur vous. Mais s'il vous plaît, reconnaissez ces propres qualités-là en vous-même. Ah, puis ça me fait penser aussi pour toutes les mamans ou les papas qui ont des bébés taureaux. Les bébés taureaux, souvent, c'est des bébés Bouddha là, que j'appelle parce que, pas toujours, mais souvent, ils vont être joufflus. Là. Ils ont comme quelque chose, justement, bon vivant. C'est la connexion au monde physique avec l'aspect nourricier pour le taureau. C'est tellement fort. Alors, ça se peut qu'il soit un petit peu plus joufflu, là, votre bébé taureau. Puis ça se peut aussi que lui, il n'est pas pressé. Ça se peut aussi qu'il n'est pas pressé à marcher puis qu'il n'est pas pressé à parler. Ça ne veut pas dire pour tous les taureaux, là, pour tous les bébés taureaux, mais j'ai remarqué ça quand même que c'est des bébés qui prennent leur temps. Puis laissez-les prendre leur temps. Ils vont se développer, inquiétez-vous pas, là, ils vont se développer normalement comme les autres, mais ils ont leur vitesse, comme je disais. T'sais, ils ont deux vitesses, c'est on, off. Quand ils vont trouver une motivation à faire quelque chose, tout d'un coup, ça va débloquer. Ne soyez pas surpris, justement, accepter que votre enfant il est peut-être un petit peu plus comme... « Yo, t'sais, j'ai bon temps, je suis pas pressée. » Pourquoi rusher? Puis, tu sais, c'est peut-être un exemple pour toutes nous autres qui courons tout le temps, tu sais. Peut-être que les bébés taureaux, ils ont ça à nous apprendre de dire « Pourquoi on court si vite, là? Ça presse donc bien la vie, là, tu sais. » Peut-être qu'ils ont compris quelque chose, nos taureaux, aussi, là. Alors, toutes ces énergies-là qu'on retrouve dans le zodiaque sont vraiment là pour venir nous enseigner quelque chose. Et encore plus, justement, quand on observe un enfant. Alors, on va regarder quelques taureaux connus pour nous informer de leur tempérament. La première qui m'est venue en tête, c'est Cher, née le 20 mai. Soleil et Mercure en taureau, ascendant Cancer, lune en Capricorne. Alors là, premièrement, j'ai beaucoup d'énergie de terre, j'ai un ascendant Cancer, le Cancer qui est gouverné par la lune, qui est en exaltation en taureau. Elle adore ça, la lune, parce que justement, être en taureau, c'est tellement rassurant. Le taureau, c'est le monde de la fertilité, de l'abondance. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est les cinq sens. Puis tu sais, c'est le printemps éternel. Il y a toujours une renaissance. Il y a toujours... c'est l'abondance. C'est l'abondance de la création, si on peut dire. Alors, hey, elle a-tu la signature? Puis c'est intéressant de voir d'ailleurs que sa lune en Capricorne est en maison 7 et qu'elle a Saturne en Cancer. Alors, les deux se retrouvent en réception mutuelle. Réception mutuelle, comme on peut voir, elle a Saturne en Cancer. Saturne gouverne le Capricorne, mais là, la Lune en Capricorne qui est gouvernée par le Cancer. Alors, il y a comme une loupe là, qui se crée dans l'énergie, si on peut dire. Et Cher, elle est reconnue pour avoir dit une phrase très, comment je pourrais dire donc, très célèbre qui me fait rire beaucoup. Elle a dit « Mom, I don't need a man. Mom, I am a rich man. » Et ça, c'est sa mère qui disait « Mais pourquoi tu ne trouves pas un mari? Pourquoi tu ne trouves pas un mari? Pourquoi tu ne te maries pas? » Puis elle disait « J'ai pas besoin d'un homme, là. Je suis mon homme riche moi-même. » Alors, qu'est-ce que je vous disais en lien avec le taureau? T'sais, du moment que le taureau a trouvé comme une genre de sécurité à l'intérieur de lui, puis des fois, ça va passer par sa sécurité financière, je vais te dire qu'il n'y a pas grand-chose qui l'arrête. C'est intéressant aussi qu'elle a Jupiter en balance, la balance qui est aussi gouvernée par Vénus. Alors, elle a vraiment une signature de Vénus super importante dans son ciel. Son Jupiter fait un aspect, un trigone, un aspect positif à son Mercure qui est aussi en taureau. Et on sait, Cher, son look, tout ça, l'esthétisme, comme on disait, les retouches qu'elle a eues, tout plein de trucs. Mais c'est ça, ça a été une femme qui a été reconnue pour son look énormément dans sa vie et je trouve que c'est clair là, dans sa charte, on le voit bien. Là. On a aussi Adèle qui a le Soleil et Jupiter en conjonction en taureau. On n'a malheureusement pas son heure de naissance. Elle a une lune en Sagittaire, alors on n'est pas mal sûr qu'elle a la lune en Sagittaire, même si on n'a pas son heure par le placement de la lune. Et oui, c'est sûr qu'il doit y avoir une certaine fougue à l'intérieur d'elle, ça c'est certain. Mais c'est très intéressant de voir justement que sa signature de taureau est opposée par Pluton en scorpion, surtout à son Jupiter, si je ne m'abuse. Et quand on regarde sa charte, on peut voir comme une forme, comme une enveloppe un peu. Et c'est comme si justement elle vient nous raconter une histoire, elle vient nous révéler quelque chose, surtout en lien avec son Pluton en Scorpion. Tu sais, c'est quelqu'un justement qui n'a pas de difficulté à parler de ses peines d'amour, qui a quand même affiché sa vulnérabilité. Alors, je trouvais ça intéressant. Et ensuite, mon dernier exemple, parce que c'est trop drôle, The Rock, Dwayne Johnson. Qui a été connu surtout au départ comme lutteur professionnel et ensuite comme acteur. The Rock, comment? C'est juste physiquement, il a de l'air d'un taureau, là. Les épaules, comment qu'il est comme tellement bâti, solide et tout. Il a l'ascendant Balance aussi, alors full, full, full Vénus. Il a sa Vénus et Mars sont en conjonction en Gémeaux. Mais là aussi, Saturne en Gémeaux. Alors là, il a dû apprendre à contrôler clairement cette Vénus et ce Mars-là, qui était probablement très, comment je pourrais dire ça, taquin et curieux et tout ce que tu voudras. Et d'ailleurs, dans son adolescence, il a flirté un petit peu avec les mauvais coups, tu sais, un petit peu gangster de quartier, un peu, tu sais, jusqu'à ce que quelqu'un le recrute justement pour l'amener vers les sports et que là, tout s'est enligné pour lui. On peut voir justement avec son Saturne en Gémeaux, peut-être qu'il avait besoin d'un encadrement, de trouver vraiment un endroit où il pouvait exceller et être très bon et que ça allait devenir une motivation, que là, ça allait donner à son Mars et à sa Vénus justement une direction. Donc, bel exemple avec The Rock, qui a aussi comme chair une lune en Capricorne. Alors, c'est des gens qui ont des signatures très, très fortes. C'est des trois exemples qui ont très, très, très bien gagné leur vie aussi, là, côté financier. C'est pas tous les taureaux qui savent bien gérer leurs finances. Comme je disais, il y a un certain lien avec les finances et comment ils gèrent leurs finances. Alors, c'est bien intéressant. Alors, voilà! Maintenant, on va regarder les transits du mois. Donc, le Soleil entre dans le signe du Taureau le 20 avril à 4h13 du matin, heure de l'Est, évidemment. Mais juste avant le 20 avril à minuit 12, on avait une nouvelle lune éclipse en Bélier. Ça, j'en ai parlé un petit peu le mois dernier. Comment c'est annonciateur justement d'un changement sur l'axe des éclipses, là, sur l'axe des nœuds nord et nœuds sud qui graduellement vont changer de signe du taureau vers le bélier parce que les nœuds vont toujours à reculons, contrairement aux autres planètes. Alors, à noter. Mais oui, on est dans la saison des éclipses, on est in between, puis en plus, au travers de tout ça, il y a un rétrograde de Mercure qui commence le 21 mai en taureau. À 15 degrés 38 pour être exact. Des Mercure rétrograde en signe de terre, je trouve ça rassurant. C'est de toutes les Mercure rétrograde, je trouve que c'est ceux qui sont les plus bénéfiques, qui nous permettent justement de vraiment analyser, prendre notre temps, s'organiser, voir au détail le côté pratique des choses. Pour moi, je le vois un peu moins intense que, exemple, des rétrogrades de Mercure en signe d'air ou de feu, là, où est-ce que l'énergie est vraiment folle. Mais c'est certain que là, on est en période d'éclipse, donc on est en période d'énergie un peu folle. Donc, la nouvelle lune éclipse en Bélier, vous pouvez aller voir dans l'épisode du Bélier, j'en parlais déjà parce que justement, c'était juste avant la transition des saisons. Et jusqu'à la fin du mois d'avril, vraiment, c'est justement Mercure, le rétrograde de Mercure, là, qui va voler un peu la vedette. Mais comme je disais, c'est quand même un rétrograde avec lequel on peut travailler. Si vous prenez votre temps, si vous n'allez pas trop vite, si vous prenez une chose à la fois, c'est parfait, c'est très bien. Et le premier jour de mai, Pluton, qui vient juste d'entrer en Verseau, va déjà passer rétrograde. À ce moment-là, il va être à 0 degré 22 minutes. Du Verseau, alors il va avoir mis les orteils. Déjà là, avec tout ce qui se passe dans le monde, on a eu vraiment une bonne idée là, des thèmes, en tout cas pour les prochaines années, un peu de qu'est-ce que ça va être, Pluton en Verseau. C'est sûr qu'on regarde dans le monde, puis il y a déjà des manifestations un peu partout. On a vu en France, on a vu en Israël. On voit toute la géopolitique mondiale aussi se réajuster, des nouveaux alignements, si on peut dire, avec la Chine, le Moyen-Orient, la Russie. Il y a aussi tout ce qui se passe avec Trump, qui lui est arrivé justement dans la dernière portion de Pluton en Capricorne. Et d'ailleurs, ben c'est ça, Pluton retourne en Capricorne. Il va rester là encore pour jusqu'à la fin de l'année, si je ne me trompe pas, faudrait que je vérifie. Pardonnez-moi si ce n'est pas tout à fait ça. Et ben là, c'est ça, là, on va aller peut-être fignoler des choses qui sont plus en lien avec le Capricorne. On va aller fermer notre chapitre. Mais même encore là, avant que vraiment Pluton ne touche plus du tout au Capricorne, on va être en 2024. Là. Alors, on a comme deux dernières séquences à aller retourner en Capricorne. Pluton va aller finir d'exposer certaines choses qui n'allaient pas du tout avec les thèmes associés au Capricorne, les structures et tout. Et évidemment, ben, la suite des choses, quand Pluton va vraiment rentrer en Verseau, ben, évidemment, ça va découler du cycle précédent. Il faut dire aussi tout le système banquier. On a vu des banques qui ont fait faillite, tout dans les mondes du tech. Hein, d'ailleurs, Pluton en Verseau, c'est sûr qu'il va y avoir un ménage ou des révélations autour des grands joueurs du monde tech, dans le fond. C'est les dessous de cette industrie-là, ce qu'ils vont essayer de réglementer. Il se passe beaucoup de choses là, à ce niveau-là. Évidemment, l'intelligence artificielle, hein, comment qu'on apprend à gérer tout ça, comment qu'on apprivoise ça tranquillement, qu'est-ce que ça va vouloir dire. On est en plus avec Saturne en poisson, alors beaucoup, beaucoup d'inconnus. C'est absolument important de faire attention à nos craintes, nos peurs en lien avec le futur parce que là, on ne sait pas. Il faut y aller vraiment au jour le jour. On est trop dans une période justement de transition où est-ce que les choses ne sont pas claires. Alors, c'est plus d'apprivoiser, d'observer. C'est ça qui va être important. Donc, Pluton qui tourne rétrograde le 1er mai. Ensuite, le 5, nous avons une pleine lune éclipse en scorpion à 14 degrés 58, 13h34, heure de l'Est. Alors, pour cette pleine lune, justement, la lune va être toute seule de son côté. Si vous regardez le ciel, là, elle est vraiment isolée. Pas tellement loin de son nœud sud, justement. Et de l'autre côté, en taureau, on retrouve le soleil en conjonction avec Mercure, avec Uranus, avec le nœud nord aussi. Mars, qui gouverne cette pleine lune éclipse, c'est important de le dire, va être en cancer. Mars fait un aspect positif à la Lune et par extension au soleil aussi, là, même si c'est large, là, on parle de 14 et 21 degrés. C'est quand même des aspects de soutien pour une pleine lune éclipse. C'est certain que c'est dans des signes fixes. Ça demande l'adaptation. Des fois, ça passe ou ça casse. Mais je dois avouer que, comme je disais, il y a un support de la part de Mars et même Saturne aussi va faire des aspects positifs de l'autre côté. Saturne qui est en poisson. Alors, c'est comme particulier. Il y a beaucoup d'énergie d'eau, c'est clair, de nos mondes émotionnels, de nos peurs certainement, de relâcher certaines peurs. Hein, c'est une pleine lune. Mais il ne faut pas oublier qu'un éclipse, ben, l'énergie peut aller d'un côté ou de l'autre. Il arrive une chose un jour, on doit s'adapter le jour d'après. Alors, c'est comme pas, c'est instable. Là. C'est vraiment une énergie instable. Il y a tellement de signatures de taureau aussi. Là, ça va être intéressant de voir comment cette éclipse-là va réagir sur les marchés financiers. Moi, j'ai comme un feeling, soit ça monte, ça descend, ou ça descend d'un coup, ça remonte après. Mais j'ai comme l'impression que ça va être une période au niveau financier, à la bourse et tout ça, là, qui va être vraiment très instable. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va jouer, mais dans nos vies personnelles, c'est très, très, très émotionnel. Peut-être relâcher des choses qu'on retient depuis tellement longtemps, mais là, ça se peut que ça sorte tout croche, mais que ça soit bénéfique quand même. Mais faites attention à comment vous le dites. Essayez de ne pas attendre de vous rendre à l'éclipse, justement, pour exprimer qu'est-ce que vous avez à exprimer. Mais clairement, une période un peu d'instabilité et qui va nous demander de faire preuve de flexibilité, ça, c'est sûr et certain. Mais comme je vous dis, il y a quand même des aspects de support et de soutien dans le ciel. Je pense que ça peut être positif pour relâcher, exprimer des choses qu'on retient depuis longtemps ou du moins de reconnecter justement avec notre monde émotionnel. Mais c'est certain que ça va être une période de temps où est-ce qu'on va sentir que les gens sont à fleur de peau parce qu'il y a tellement d'énergie, d'eau dans l'air. Donc, profitez peut-être justement des jours qui entourent cette éclipse-là pour vous défouler, pour écrire, pour s'il y a un surplus vraiment comme « brrr » là, tu sais, faites sortir ça. Moi, ça serait vraiment un conseil peut-être avant d'exploser devant quelqu'un. Ça serait peut-être bon de se décharger un peu avant par soi-même. Deux jours après, on a Vénus qui vient rejoindre Mars dans le signe du cancer. Alors ça aussi, ça va changer la donne. C'est sûr que présentement, puisque Saturne est en poisson, les signatures d'eau sont différentes. Du moment que Vénus va rentrer en cancer, bien, tout de suite, elle va faire des aspects positifs à Saturne. Alors, comme je vous dis, il y a comme un soutien, un support envers notre monde émotionnel au travers des fois de brouillard, dans la façon qu'on s'exprime, tout ça, tu sais, on est beaucoup dans une période d'apprentissage, d'apprendre à se gérer, autrement dit, d'apprendre à gérer notre monde émotionnel, puis de gérer nos peurs, puis nos anxiétés, puis tout ça. Fait que, tu sais, je trouve ça quand même intéressant, là, vraiment une signature différente dans le ciel, là. Ça, c'est sûr et certain. Donc, Vénus qui va rentrer en cancer. Faut pas oublier que tout au long de ça, on est en Mercure rétrograde. Il y a des choses qui pourraient vraiment flipper d'un côté et de l'autre. Avoir comme des projets que vous avez en tête que ah, vous avez l'impression que ça s'en va dans un sens, puis là, oups, c'est pas tout à fait ça, mais oups, finalement, ça va être ça, mais on va le faire autrement, on va trouver une solution par après quand Mercure va redevenir direct. Alors, l'énergie est vraiment en l'air et pourrait vraiment flipper. Attendez vraiment la fin des éclipses, la fin du Mercure rétrograde avant de jeter l'éponge. Si jamais il y a quelque chose qui vous tient à cœur, puis là, c'était censé marcher, puis ça marche plus, puis tout ça. Attendez, parce que ça se pourrait que les choses se remettent en chemin par la suite après le rétrograde qui se termine le 14 mai, mais on va devoir attendre justement que Mercure sorte de sa zone un peu de shadow, comme on appelle, ou est-ce qu'il a déjà repassé, qu'il soit vraiment dans du nouveau territoire pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Et le 16, Jupiter entre en taureau. Le moment que tous les taureaux attendent, c'est votre moment, c'est votre année. Une fois par 12 ans que Jupiter entre dans un ciel, il arrive en taureau. Si vous avez Jupiter en taureau, vous allez avoir votre retour de Jupiter. Moi, j'aime énormément l'énergie du taureau, il me fait du bien. Donc, Jupiter qui amène bienveillance, confiance, optimisme, chance et tout ça, il amène ça dans le signe du taureau. Ça va être une énergie stabilisante aussi dans le contexte où est-ce qu'on est, qu'on a tellement l'impression que tout va dans tous les sens. Mais Jupiter en taureau va nous aider à nous ancrer, puis à trouver la bonne vitesse, aller renforcer un peu le travail du nœud nord, le travail que le nœud nord fait depuis plus d'un an dans le signe du taureau, de dire « Hey, comme ralentissez, là, ralentissez, revenez à la nature, revenez ici, là, groundez-vous. » Alors, Jupiter va venir nous aider à ancrer ça dans la prochaine année. Alors, ça va être bienvenu dans le contexte dans lequel on est. Alors, moi, j'adore ça. Ça goûte bon, Jupiter en taureau. On aime bien ça. Et ensuite, le 19, nous allons avoir une nouvelle lune en taureau à 28 degrés, dans les derniers degrés du taureau. Honnêtement, j'adore cette nouvelle lune-là. Il y a tellement une belle signature, justement, dans le signe du taureau. Déjà que Jupiter vient d'y arriver dans les premiers degrés. La nouvelle lune est dans les derniers degrés. Mercure est direct. Uranus est là. Cette idée d'adaptation-là, de garder une stabilité, mais d'être capable de faire preuve de flexibilité ou d'ajustement. Ça pourrait être une belle idée d'intention d'y aller avec quelque chose qui nous parle d'adaptation, d'être capable de s'adapter, de faire preuve d'ouverture, tout en lien justement avec le côté pratique de la vie, mais aussi avec tout notre rapport à l'abondance, notre rapport à la vitesse, notre rapport à tellement de choses. Alors, c'est toutes des intentions qui pourraient être intéressantes. En plus, gouvernées par Vénus qui est en cancer, ça a une signature aussi nourricière, si on peut dire, de prendre soin de soi. Il y a vraiment une signature de self-care là-dedans, moi, je trouve. Saturne va être en aspect de soutien, il va être en sextile à Mercure, qui est maintenant direct. Alors, il y a comme quelque chose de très constructif, de très être capable de structurer pour aller de l'avant, mais avec une capacité d'adaptation qu'on est en train peut-être de développer. Bref, c'est vraiment une belle nouvelle lune là, après toute la période des éclipses qu'on a vécues. Là, ça va être vraiment bienvenu. Jupiter qui est maintenant en taureau va être en carré à Pluton. Pluton est vraiment dans une course un peu évolutionnaire là, avec son entrée en Verseau. Je vois comme quelque chose vraiment de trouver une stabilité à l'intérieur de ce monde-là qui change. Alors, toutes des belles idées de nouvelles intentions ou de pensées tout simplement à avoir pour cette période-là. Ensuite, le lendemain, sachons pas, hein, Mars, notre planète guerrière, entre en Lion. Oh yeah, là! Mars dans un signe de feu qui va secouer un peu de ses énergies du cancer qui l'a peut-être ralenti. Il va retrouver de la vitesse, de la vitalité, le goût de bouger, de faire des choses. Alors ça va être super intéressant. Mars en Lion va venir un peu challenger justement tous les aspects de taureau, de sortir de notre zone de confort. Mais si on a fait un peu de travail, si on a conscientisé justement qu'on était capable de se sentir solide tout en faisant preuve de flexibilité, ben il y a quelque chose à gagner là, certain, puis ça va être d'aller tester ça avec Mars sur le terrain pour faire avancer nos projets, faire avancer nos choses, justement, et se mettre de l'avant aussi, avoir le courage de se mettre de l'avant, c'est le Lion, après tout. Et le lendemain, le 21, eh bien, le Soleil va entrer en Gémeaux. Et ça, on va voir ça le mois prochain. Pour cet épisode, il n'y a pas de petite histoire parce que je m'en vais d'ici quelques dodos en Italie. Alors, je vais aller faire le plein d'histoires puis je vous raconterai ça en revenant, c'est certain. Je m'en vais à l'époque de la Renaissance, je m'en vais à l'époque justement où est-ce que des grands penseurs, des grands artistes, des grands architectes ont fait des choses merveilleuses et qui reconnectaient justement avec l'époque classique un peu... même hellénistique, grec et tout, Socrate, Platon et compagnie. Alors, toute cette pensée-là et même la reconnexion avec Vénus qui a tellement été une influence très forte pour plusieurs peintres de l'époque de la Renaissance. Donc, je suis super excitée par ça. Là-dessus, je vous salue. Je vous souhaite une excellente saison du taureau. Et on se revoit le mois prochain. C'est tout pour cet épisode. Merci de votre écoute, encore une fois. Merci de commenter, de partager, ça fait toujours une différence pour la visibilité. Et n'oubliez pas, ne demandez pas ce que les planètes peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre planète.